Et à pile 18h, c'est l'heure du journal avec Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Fin de campagne en Catalogne. Les indépendantistes et les espagnolistes sont pratiquement à égalité dans les derniers sondages avant le scrutin de jeudi. Nous serons en direct de Barcelone avec notre envoyé spécial Annabelle Grelier. Le nouveau chancelier autrichien Sébastien Kurz est à Bruxelles aujourd'hui pour expliquer aux dirigeants européens qu'ils n'ont rien à craindre de son gouvernement de droite et d'extrême droite. À Vienne, le nouveau ministre de l'Intérieur Herbert Kickl est mis en cause publiquement par sa propre cousine. L'affaire fait grand bruit en Autriche, nous dira Isorias. La Corée du Sud, sous le choc après le suicide d'une star de la pop coréenne, Kim Jong-un. Il n'avait que 27 ans, Frédérico Jardias nous appellera de Séoul. En France, presque tous les membres du Conseil national du numérique ont démissionné aujourd'hui, dans la foulée de leur présidente Marie Eklund. Au cœur de la crise, la nomination de l'activiste antiraciste Rokhaya Diallo, finalement désavouée par le gouvernement. Nous en parlerons avec Ludovic Piétenu. Le dossier de ce journal consacré aux 50 ans de la loi Neuwirth qui autorisait la pilule. Mais aujourd'hui, d'autres méthodes contraceptives restent méconnues. Un dossier préparé par Tara Schlegel. La Catalogne votera donc jeudi avec l'espoir de sortir de la crise politique née de la déclaration unilatérale d'indépendance par les séparatistes catalans. La campagne officielle de ces élections régionales s'achève ce soir avec deux temps forts. Tout d'abord à Estremera, près de Madrid, des indépendantistes ont organisé une conférence de presse devant la prison où sont incarcérés deux de leurs leaders, Oriol Junqueras et Joaquim Forn. Et puis à Bruxelles, le président catalan déchu Carles Puigdemont tiendra ce soir un meeting retransmis dans une centaine de villes. Nous sommes en ligne avec notre envoyée spéciale en Catalogne, Annabelle Grelier. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Alors Annabelle, le scrutin s'annonce serré. Les deux camps, les indépendantistes et les partisans de l'Espagne, sont aujourd'hui au coude à coude.
Oui, si l'on en croit les sondages, le parti de gauche indépendantiste, le RC d'Oriol Junqueras, et le parti libéral anti-indépendantiste Ciudadanos se disputeront la première place jeudi soir. Sa dirigeante Inés Arrimadas a même assuré que cela pourrait se jouer à quelques voix près. C'est dire si le taux de participation sera décisif dans ces élections que l'on annonce déjà record, plus de 80% de la population se déplacerait pour aller voter. Pour gagner des électeurs, ce n'est pas tant sur les programmes que se livre la bataille que sur le terrain psychologique. Dans le bloc indépendantiste, on parle de justice, de dignité du peuple catalan, quand dans le camp des unionistes, on leur rassure qu'ils retrouveront calme et sérénité. Un retour à la normale que Mariano Rajoy a voulu personnifié. En déplacement en Catalogne aujourd'hui, il postait ce matin sur Twitter une vidéo de son jogging. En short, le chef du gouvernement adressait un message aux électeurs favorables à l'unité du pays d'aller voter en masse. Pourtant, son parti, le PP, très impopulaire en Catalogne, perd selon les derniers sondages encore du terrain. Il pourrait même arriver dernier, derrière la petite formation séparatiste d'extrême gauche, la CUP.
Annabelle Grelier en direct de Barcelone, merci. Revenons à présent sur l'arrivée au pouvoir en Autriche des conservateurs et des populistes anti-immigration. Le nouveau chancelier autrichien Sébastien Kurz est à Bruxelles aujourd'hui. Il doit rencontrer dans la soirée les deux hommes forts de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker et Donald Tusk. L'Union européenne qui a pris acte de la présence de ministres d'extrême droite au sein du gouvernement autrichien. Une discrétion qui tranche avec l'an 2000 lorsque l'UE avait infligé des sanctions à la coalition droite-extrême droite, alors au pouvoir à Vienne. Parmi les ministres FPE du nouveau gouvernement, il y en a un qui suscite déjà la polémique, Herbert Kickl, ministre de l'Intérieur et artisan de la politique xénophobe de son parti. Sa propre cousine l'a interpellé sur Facebook via une lettre ouverte particulièrement cinglante. Isorias nous appelle de Vienne.
C'est une critique en bonne et due forme que Daniela Kickl a postée hier soir. Dès le début de sa lettre, cette Autrichienne de 47 ans donne le ton. « Cher cousin, nous sommes tous très fiers de toi. Enfin presque. » Son cousin, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur, Herbert Kickl, membre éminent du FPE. Un parti qui prétend aider les gens les plus pauvres, mais n'en est rien, selon Daniela Kickl. Elle écrit « Comment les petites gens vont-ils profiter de la baisse des allocations chômage, de la libéralisation des loyers ?» ou des frais d'inscription à la fac. On pourrait presque croire que vous nous arnaquez tous. La lettre a été commentée et partagée plus de 14 000 fois en quelques heures sur Facebook, relayée notamment par des personnalités politiques comme Christian Kern, le chef du Parti social-démocrate, pour qui ce témoignage mérite vraiment d'être lu. Si cette lettre suscite autant de réactions, c'est parce que Herbert Kickl est une personnalité controversée. Il est le stratège du FPE. C'est à lui que l'on doit les sorties xénophobes et antisémites du parti dans le passé, notamment lorsqu'il était la plume de Jörg Haider. Voilà pourquoi sa nomination est très critiquée, surtout à un poste clé jamais occupé par un ministre d'extrême droite depuis 1945.
Isorias, correspondante en Autriche. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux, surtout au Proche-Orient. On y voit une adolescente palestinienne s'en prendre à un soldat israélien en Cisjordanie. Elle le pousse, le gifle, lui donne un coup de pied. Le soldat, à l'évidence, essaye de ne pas répondre aux provocations. L'adolescente a finalement été arrêtée hier soir, devenant par là même un nouveau symbole de la résistance palestinienne à l'État hébreu. La correspondance à Jérusalem d'Étienne Monin.
En Palestine, Ahed Tamimi n'est plus une jeune fille comme les autres. Cette petite blonde aux longs cheveux frisés appartient à une famille qui a fait de la confrontation avec l'armée un acte politique et médiatique permanent dans le village de Nabi Saleh, confronté à la proximité des colonies. La jeune fille a déjà été filmée, photographiée il y a plus de 2 ans. La violence de la confrontation à l'époque avait marqué les esprits. Puis la famille Tamimi avait retrouvé sa place de résistant du quotidien. Cette fois, Ahed Tamimi secoue la société israélienne au cœur d'une contestation palestinienne qui manque de souffle. Cette jeune fille trouve une place de figure qui ressemble à celle de David face à un Goliath un peu désarçonné. Depuis vendredi, les images circulent en boucle. Elles montrent cette jeune fille en train de provoquer 2 soldats israéliens. Elle les frappe à coups de pied, à coups de gifle. Les soldats subissent, ils choisissent de ne pas envenimer la situation. Mais le corps politique a vivement réagi. L'extrême droite demande l'emprisonnement à vie de la jeune fille. Elle a été arrêtée cette nuit dans sa maison. Elle est aujourd'hui au centre des débats dans la presse. Cette affaire agit comme un contrepoint à l'affaire Elor Azaria. Ce soldat franco-israélien avait abattu à terre un assaillant palestinien blessé. Le débat avait porté alors sur l'éthique et l'usage proportionné de la force dans l'armée.
Étienne Monin, correspondant de Radio France en Israël et dans les territoires palestiniens. Merci. Le ton monte entre Emmanuel Macron et Bachar al-Assad. Le président français qualifie d'inacceptable la dernière charge de son homologue syrien qui avait accusé hier la France de soutien au terrorisme en Syrie. Emmanuel Macron rappelle que seule la coalition internationale soutenue par Washington et Paris avait pour unique objectif la lutte contre Daesh. Assad, lui, voulait surtout frapper les opposants à son régime. Le peuple syrien a un ennemi, il s'appelle Bachar, c'est une réalité, a ajouté le chef de l'État français. En Corée du Sud, le suicide d'un chanteur suscite une intense vague d'émotions. Kim Jong-un était une star de la K-pop, la pop coréenne dont le succès dépasse largement le cadre national. Kim Jong-un était le leader du boys band SHINee. Il s'est suicidé hier soir dans une chambre d'hôtel à Séoul. À ses côtés, une briquette de charbon consumée. Il s'agit là d'une méthode courante de suicide en Corée du Sud, pays qui a l'un des taux de suicide les plus élevés au monde. On retrouve à Séoul Frédéric Ojardias.
Fondée en 2008, SHINee avait rencontré un succès phénoménal qui avait largement dépassé les frontières de la Corée. En témoignent les innombrables messages, incrédules et éplorés, laissés sur les réseaux sociaux par des fans du monde entier. Au Chili, c'est devant l'ambassade sud-coréenne à Santiago que des dizaines de fans en larmes se sont réunis. Dans une lettre d'adieu, le chanteur Kim Jong-un a déclaré être cassé de l'intérieur et de ne pas pouvoir surmonter la dépression qui le rongeait. La dépression est un sujet encore tabou en Corée du Sud, une société ultra compétitive où consulter un psychologue est vu comme un signe de faiblesse. Résultat, le pays affiche l'un des pires taux de suicide au monde. Des ponts de la capitale, Séoul, sont bardés de dispositifs pour dissuader les gens de sauter dans le fleuve. Les suicides de célébrités sont souvent suivis d'un pic de disparition. Sous les paillettes, le monde de la K-pop est lui-même particulièrement impitoyable. Ces très jeunes stars passent des années à s'entraîner de manière intensive au chant et à la danse, la chirurgie esthétique est de mise. Les maisons de disques contrôlent le régime, le téléphone et les relations amoureuses de leurs poulains. Quant aux fans sud-coréens, ils sont aussi très exigeants. Le moindre écart de conduite suscite des avalanches de critiques en ligne, autant de facteurs qui ont peut-être aggravé la dépression dont souffrait le chanteur.
Voilà la musique de Shiny et de son leader Kim Jong-un qui s'est donc donné la mort hier. Merci à Frédéric Ojardias, notre correspondant en Corée du Sud. Le Conseil national du numérique est en crise. Presque tous les membres de l'instance ont démissionné aujourd'hui, emboîtant le pas à leur présidente Marie Eklund. Marie Eklund qui avait elle-même nommé les membres du Conseil. Seulement voilà, le gouvernement a retoqué deux personnalités, la militante antiraciste Rokhaya Diallo et le rappeur Axiom. On rappellera qu'avant Marie Eklund, le Conseil national du numérique avait été présidé par Mounir Majoubi, aujourd'hui secrétaire d'État au numérique. Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Revenons aux origines de la crise. La nomination de Rokhaya Diallo, mise en cause notamment pour ses dénonciations virulentes d'un supposé racisme d'État.
Oui, cette nomination avait pourtant, vous l'avez dit, été proposée par Marie Eklund, mais surtout validée par le Premier ministre et son secrétaire d'État au numérique. Lundi dernier, quand la toute nouvelle présidente de ce conseil égrène les noms devant la presse et en présence de ce membre du gouvernement, Mounir Majoubi, ne réagit pas quand les noms de Rokhaya Diallo ou du rappeur Hicham Koshman, surnommé Axiom, sont cités. Marie Eklund se dit extrêmement fière de ce collectif. Madame Diallo, dit-elle, déconstruit les mécanismes de la construction de la haine en ligne et elle défend les droits des afrodescendants et des minorités au sens large. Monsieur Koshman, lui, est un rappeur engagé pour l'égalité des droits et il secoue, ce sont ses termes, les musiques urbaines avec sa start-up. Ce sont deux des 30 esprits passionnés et constructifs, comme les définit encore la présidente aujourd'hui démissionnaire.
Alors Ludovic, cette conférence de presse intervenait deux jours avant la première réaction politique dans cette affaire.
Oui, celle de la députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, qui s'offusque de leur présence et du racisme d'État qu'a dénoncé par le passé Rokhaya Diallo. C'était avant aussi que le printemps républicain et l'ancien Premier ministre, aujourd'hui député apparenté La République En Marche, Manuel Valls, ne relaient cette information à leur tour. Et avant que son propre tweet à Manuel Valls ne soit repris par Robert Ménard, élu maire de Béziers avec le soutien des principales formations politiques souverainistes de droite et d'extrême droite. Une convergence d'intérêts surprenante, peut-être même inédite en France, mais qui a fait plier le gouvernement. Un grand gâchis dénonce ce soir le rappeur Axiom que je viens d'avoir en ligne. Le secrétaire d'État au numérique, lui, dans une interview au Figaro, estime qu'après ces nominations, tout le monde a oublié le Conseil du numérique et ce qu'il était censé faire, à savoir produire une réflexion sur les enjeux posés par cette révolution, cette transformation profonde que le numérique a sur nos vies. Une nouvelle composition du Conseil national du numérique devrait être annoncée en tout début d'année.
Ludovic Piétenu, chef du service politique de France Culture, merci. Pas de surprise à l'Assemblée, les députés ont adopté à une très large majorité la loi qui réforme l'accès à l'université. 361 voix pour, 129 contre et 34 abstentions. Texte voté par la majorité LREM et Modem, mais aussi par les centristes du groupe UDI Agir. Les trois groupes de gauche ainsi que celui des Républicains ont voté contre. Le texte supprime notamment le tirage au sort pour entrer en fac. Il instaure une nouvelle plateforme d'inscription pour les bacheliers, Parcoursup, qui remplace APB Admission Post-Bac. Environ 400 agriculteurs ont manifesté aujourd'hui à Paris au Carrousel du Louvre à l'appel du premier syndicat agricole, la FNSEA. Venus d'une quinzaine de départements du nord de la France, ils ont dénoncé les contraintes que leur imposeraient à la fois l'Europe et le gouvernement. Trop de normes, SOS Agriculture, France veux-tu encore des agriculteurs? Voilà quelques-uns des slogans de ce rassemblement. C'est un reportage de Benjamin Illy.
Ces agriculteurs ont l'Europe dans le viseur, mais aussi et surtout Emmanuel Macron. La plupart ont porté un masque à son effigie et ce n'est pas tout. Damien Artaud, céréalier dans l'Oise.
J'ai un nez qui est très long, qui ressemble à quelqu'un qui mentait, qui avait le nez qui s'allongeait, qui s'appelait Pinocchio. Donc on a le même nez. Donc on a un président de la République qui a un double discours. Il nous dit des choses et à certains, il en dit à d'autres. Et aujourd'hui, le langage n'est pas clair pour les agriculteurs. En fait, on dit qu'il est libéral. En agriculture, c'est l'inverse. Il est en train d'avoir une agriculture de conservation. Et on est en train de tout figer, on interdit tout en France et on va autoriser les importations des autres pays. Donc les importations, c'est aussi bien les CETA, donc les produits qui vont venir du Canada. Donc le Canada, ils utilisent des produits qui sont interdits en France depuis 25 ans. Il y a 46 matières actives qui sont interdites en France. Mais en France, on nous impose des choses totalement différentes. Donc on peut pas être compétitif, quoi.
Et pour appuyer ce discours, une mise en scène non loin de la pyramide du Louvre, un lieu très symbolique où le président a célébré sa victoire en mai dernier, les manifestants ont défait des ballots de paille au son de l'ode à la joie pour dire à Emmanuel Macron que justement, les agriculteurs sont sur la paille.
Benjamin Hilly, merci. L'agriculture et la réforme de la politique agricole commune, on en reparle dans un instant après ce journal dans le grain à moudre avec Hervé Gardette et ses invités. Le dossier de ce journal est consacré aujourd'hui au 50e anniversaire de la loi Neuwirth, texte qui légalisait la pilule en France. Aujourd'hui, la pilule reste le moyen contraceptif le plus employé par les femmes. Plus d'un tiers l'utilise selon une enquête de Santé publique France. Ce taux monte à 60% chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans. Le recours à la pilule recule aujourd'hui au profit notamment du stérilet. Mais à côté de ces deux méthodes, il existe d'autres moyens contraceptifs peu développés en France, faute d'une information suffisante. Le reportage de Tara Schlegel dans l'un des trois centres parisiens du planning familial, celui du 13e arrondissement.
Depuis 67, beaucoup de choses ont changé. Quand la pilule a été autorisée, Monique Fenet, aujourd'hui bénévole, avait 20 ans.
J'ai entendu parler d'avortements de femmes plus âgées que moi, genre ma belle-mère qui a fait 6 avortements clandestins. Donc c'est quand même très, très difficile. Donc ça m'a toujours intéressée dès que j'étais à la retraite, je suis venue au planning. Et je découvre des choses assez aberrantes de la part parfois de médecins, des affirmations. Bah, il vaut mieux quand même avoir un troisième enfant, et pourquoi prendre la pilule maintenant? Des pharmaciens qui disent « Ah, vous avez déjà pris une pilule d'urgence, vous ne pouvez pas en prendre une deuxième parce que vous allez être stérile. » C'est faux. Bah, moi j'ai appris plein de choses ici. Hein.
Alors, on va faire un petit tour pour savoir... Quels sont vos désirs?
Moi, j'ai eu un problème avec ma contraception.
Ouais. Ici, la parole circule et permet de cerner les demandes des femmes, affirme Héloïse Galili, qui travaille au planning depuis 8 ans.
On constate que la contraception, bien qu'elle soit rentrée dans les mœurs et dans les usages, elle reste une pratique qui est traversée par le sexisme, par des difficultés d'accès. Alors, pas forcément à la contraception en général, mais à tous les types de contraception. Je pense par exemple aux stérilets. De plus en plus, les femmes utilisent des stérilets quand elles sont jeunes, sans avoir une enfant. Avant, c'était pas évident. Si, c'était une bonne idée, mais en fait, jusqu'à récemment, c'était quasiment proscrit pour cette catégorie de femmes-là. Donc, l'accès à tous les moyens de contraception n'est toujours pas garanti.
La pilule domine largement. 60% des jeunes filles la prennent, au détriment d'autres méthodes. Les femmes n'ont pas assez d'outils en main pour choisir, affirme la sociologue Nathalie Bajos, directrice de recherche à l'INSERM.
Au Royaume-Uni, par exemple, on lui présente absolument toutes les méthodes de contraception qui existent, y compris le préservatif, y compris la stérilisation féminine ou masculine. Et avec le professionnel de santé, la femme ou l'homme essaye de penser, de trouver la méthode de contraception qui lui correspond le mieux. En France, en revanche, nos enquêtes le montrent très clairement, beaucoup de professionnels ne proposent pas toutes les méthodes de contraception qui existent. Donc on a, de ce point de vue-là, une spécificité qui est liée au mode de formation des médecins, à la façon dont les médecins sont rémunérés en France, avec un paiement à l'acte versus au Royaume-Uni un système nationalisé. Et donc, je veux dire que quand une femme utilise la pilule, elle doit revenir de manière beaucoup plus régulière pour se voir prescrire une pilule. Ça nécessite un suivi plus régulier que quand une femme utilise un stérilet ou quand elle utilise des préservatifs. Et on est quand même sur un modèle qu'on peut qualifier avec des guillemets, même si les guillemets passent pas à la radio, beaucoup plus paternaliste.
On m'a dit que chez les hommes, ça...
Retour au planning, dans le 13e, où l'on parle de tout, y compris de contraception masculine.
Yang, est-ce que tu veux bien expliquer?
Il y a une méthode mécanique, c'est ce qu'on appelle le slip chauffant.
Pourquoi les hommes ont les bourses qui sont à l'extérieur? C'est une question de température.
Sur la contraception, on a beaucoup avancé. Par contre, il y a des petits frémissements de recul sur des attaques de certains groupes.
Héloïse Galili.
Qui se présentent comme des associations de consommateurs-consommatrices, plus ou moins politisées, qui stigmatisent telle ou telle contraception. On a des études qui sortent, style la pilule, pilule et cancer du sein. Et en fait, on a toujours besoin de déchiffrer ces études parce qu'effectivement, il y a un risque légèrement accru de cancer du sein pour les femmes à risque. Mais il faut toujours redire, oui, mais sur l'ensemble, ça diminue certains autres cancers, cancer colorectal, cancer de l'ovaire, cancer de l'endomètre. Ceci dit, il faut faire des études puisque pour pouvoir informer honnêtement les femmes Pour qu'elles puissent choisir, il faut un maximum d'études. Le problème, c'est comment elles sont instrumentalisées par certains groupes anti-contraception. Il y a beaucoup, beaucoup maintenant de retours à la question du naturel, mais le naturel, malheureusement, c'est pour pas mal de femmes le retour à quelque chose de peu fiable, finalement, sur la maîtrise de sa contraception, ou alors passer son temps à regarder sa glaire. Ça peut convenir à certaines femmes, mais c'est vrai que c'est un temps qu'on ne passe pas à penser à autre chose pour s'émanciper de notre vagin, quoi, de notre utérus.
Voilà pour ce dossier préparé par Tara Schlegel, la retrouver sur franceculture.fr. Un mot de la météo demain, temps très gris sur la moitié nord avec le retour de la neige dans le nord-est à partir de 400 mètres d'altitude. À l'ouest, le temps se radoucit sous un ciel nuageux. Le soleil s'imposera au sud après la dissipation des brumes matinales. Température maximale 3 à 10 degrés d'est en ouest, 9 à 12 sur les régions méditerranéennes et en bord de Manche. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.